Merci Seigneur, parce qu'on a entendu vraiment d'excellents témoignages. Et ce qu'on a vu également ce matin, c'est des antagonismes. On a eu d'un côté la vidéo d'Alex, et de l'autre côté, on a les témoignages. La vidéo d'Alex correspond et elle suit en fin de compte ce qu'il a dit depuis le début de sa présentation. C'est qu'on vit dans un monde où la pensée de Dieu n'existe plus. Et malheureusement, c'est incroyable parce que ce qu'on a vu, c'est exactement ce qui arrive. Et c'est incroyable, et ça m'a beaucoup touché et troublé. Enfin, troublé non, parce que je sais que quand l'Esprit de Dieu veut parler, il parle. C'est que ça correspond exactement à la prédication que je vais faire ce matin. Entre la vidéo d'Alex et le témoignage de Catherine et de Brigitte, je me situe où? Parce que c'est bien beau de regarder ces vidéos et de dire, ah oui, le monde, il est comme ça. Le monde, il est comme ça. Est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis comme ça? Et il ne faut pas se tromper. Et je vais commencer, la prédication va commencer par une prophétie. Il ne faut pas se tromper. Il faut exactement savoir dans quel camp on se situe. Est-ce que vous pensez réellement que si Catherine n'avait pas eu cette espérance en Dieu, Dieu l'aurait aidée? Est-ce que vous pensez qu'elle n'aurait pas connu cette épreuve? Parce que l'idée de Dieu, c'est de nous faire passer par le feu, pour que toutes les impuretés remontent à la surface et que d'un coup, toutes les impuretés s'en aillent. Et que la personne qui est en train de faire brûler ce métal se voit. C'est-à-dire que la personne qui enlève les scories, c'est Dieu. Et Dieu doit se voir dans ce métal qui passe par le feu. Dieu doit se voir en nous. Et la parole nous avertit sur ces choses. On va prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 à 10. J'ai été interpellé il y a 15 jours par cette chose, et cette semaine par un autre verset. Donc je vais lier la prédication sur ces deux choses. Et vous allez voir à quel point ces deux faits sont importants. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 4 à 10. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions. C'est exactement le cas de certains frères et sœurs dans cette église. De vos afflictions que vous avez à supporter, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Dieu, du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. On voit ici que les membres de l'Église ont été persévérants, sont restés persévérants et remplis de la foi, malgré les persécutions, malgré ce qu'ils subissaient. Ils persévéraient courageusement. Et c'est une indication du juste jugement de Dieu. En fin de compte, s'ils n'avaient jamais reçu la puissance divine, ils n'auraient jamais tenu. Pourquoi Catherine a tenu, à votre avis? Pourquoi Brigitte et Alex ont gardé cette espérance? C'est parce que c'est Christ qui vit en eux. C'est plus eux qui vivent pour ce monde, c'est Christ qui vit en eux. Est-ce qu'on est chacun ce matin à prêt à endurer les mêmes souffrances? Quand on voit ces vidéos de ce matin, est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, nous-mêmes, nous qui nous disons chrétiens, on ne va pas être persécutés? Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on mette en avant la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait et tout va à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, il vous dit « Dieu est bon ». Et là, on vient de parler du juste jugement de Dieu. L'endurance et la persévérance de ce peuple a fait qu'ils étaient dignes du royaume de Dieu. Ils ont été rendus dignes. Est-ce que je suis persévérant? Est-ce que je suis endurant ce matin? Et ce qui est incroyable, c'est que le juste, et je tiens à dire à chaque fois juste, parce que c'est bien marqué dans la parole, c'est juste jugement de Dieu. Il faut arrêter de dire Dieu est bon. Merci Seigneur, parce que Dieu est bon. Parce que sinon, tous ici, même moi y compris, on serait foudroyés. Mais Dieu est juste et bon. Il va se révéler, le jugement de Dieu va se révéler de deux façons, on l'a vu. Il punira les ennemis de son peuple. Et il va récompenser ceux qui souffrent à cause de son nom. Il va les mettre dans le repos, dans son repos, un repos éternel, fait de joie, dans la gloire de Dieu. Mais le temps de la rétribution va venir. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans le ciel avec les anges, il est dit la flamme de feu. Dans l'Apocalypse, lorsque vous étudiez les premiers versets de l'Apocalypse, il est dit que les flammes, les yeux de Jésus seront comme des flammes. Ils transperceront le cœur de l'homme. C'est à ce moment-là que les choses vont être visibles. C'est à ce moment-là que tout ce qu'on aura construit sera vu. J'ai bien dit construit. C'est-à-dire toutes ces choses, l'image qu'on donne aujourd'hui, elle va s'effondrer. Elle va complètement s'effondrer. En Psaume 50, verset 3, « Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. » En Ésaïe 66, 15, « Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. » On peut s'imaginer, est-ce qu'on s'imagine que Dieu exerce sa colère d'une façon vindicative parce qu'il est Dieu? En fin de compte, Dieu exerce sa colère parce que c'est une juste rétribution. Ce n'est pas ici l'idée de se venger. Mais c'est simplement exercer le châtiment par rapport à lui, ce qu'il est. Lui, le saint et le juste, c'est la personnalité de Dieu. Et Paul va maintenant décrire, on l'a lu, les deux catégories qui méritent la rétribution. Et c'est là où on ne pourra rien cacher. La première, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui disent, par exemple, que c'est l'évolution. L'homme est arrivé, il a changé. Les uns disent un poisson, les autres disent un singe. Et j'ai bien aimé Grégoire. Vous savez que je le cite souvent quand les gens me parlent d'autres choses. Je leur cite exactement la phrase que Grégoire a dit dans une de ses prédications. Quand quelqu'un vous dit « Oui, mais on descend du singe, on descend du poisson », tu peux m'expliquer comment sont arrivées les abeilles? Comment sont arrivés les papillons? Et là, il n'y a plus de réponse. Il n'y a plus aucune réponse. Parce que personne n'est capable d'expliquer. Donc ce sont ceux, la première catégorie, qui ont rejeté la connaissance de Dieu. Le véritable, tel qu'il se révèle dans la nature, mais également dans la conscience. Parce qu'il y a des tribus dans des forêts qui ont regardé le soleil, qui ont dit, mais il y a un Dieu pour avoir créé cette chose-là. Et dans leur conscience naît cette adoration de ce Dieu qui a construit ce soleil. Il y en a d'autres qui refusent totalement ça. La deuxième, qui peut-être nous concerne aujourd'hui, ce sont ceux qui n'obéissent pas à l'évangile du Seigneur Jésus. Ceux qui ont entendu l'évangile, qui l'ont rejeté. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement une multitude de faits qu'il faut croire. On peut croire en sa parole. Oui, bah, je crois, oui. C'est un livre autrement que les autres. Mais ce que nous demande de la parole, c'est de croire à celui qui est le fondement de cette parole, Jésus-Christ. La parole nous demande de croire en Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors je vais commencer ma prédication ici, sur deux questions. Suis-je digne du jugement de Dieu, du royaume de Dieu? Et la deuxième, c'est vais-je connaître le juste jugement de Dieu? Et j'aimerais vous lire ce verset que j'ai reçu et qui m'a vraiment mis devant le Seigneur. Parce que vous savez, moi qui suis au micro, je ne suis peut-être pas mieux que vous. Et je suis certainement pas mieux que vous. Mais j'aime bien que le Seigneur me remette les évidences. Me dire, mais regarde ta vie. Est-ce que tu penses être au fait de la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis toujours à la parole de Dieu? En Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous savez, tous ces petits bonhommes qu'on a vus et qui vont directement dans le ravin. Les uns, c'est le téléphone, les autres, c'est autre chose. On le verra plus tard. Si vous lisez Galates, vous allez voir qu'au chapitre 4, on nous décrit la position du croyant comme libre. Le chapitre 5, il nous demande de vivre comme un homme affranchi. Ça veut dire ne plus être esclave. Est-ce qu'on a conscience qu'on est libre ce matin au prix exorbitant de la vie de Jésus-Christ? Est-ce qu'on en a conscience ce matin? Est-ce qu'on est comme certains Galates, parce que Paul ici s'adresse à des gens de l'Église qui voulaient retourner à la loi. Est-ce que ce matin, on ne sait pas trop, ou alors on veut bien vivre d'un côté une vie chrétienne et de l'autre côté une vie avec le monde? Mais est-ce que vous savez que la nature parfaite de l'homme créé par Dieu a été faussé par une seule question. Une seule question. Ça a fichu en l'air tout le plan de Dieu pour nous. Le serpent est arrivé. Dieu a-t-il réellement dit? La seule question. Dieu a-t-il réellement dit? Et dans nos vies, ça se traduit par plein de choses. On va le voir plus tard. Mais Dieu t'a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vrai que l'existence de Jésus-Christ te donne la vie éternelle? Mais toi qui es assis dans l'église, toi qui es devant le micro, est-ce que ce n'est pas des balivernes? Si ce n'est pas des balivernes, notre vie doit montrer, témoigner de la puissance de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et à ce moment-là, un mal terrible est entré en l'homme, le péché. Adam et Ève, on le voit après, aussitôt, sont devenus esclaves. Ils ont été conscients de leur état, puisqu'ils se sont vus nus. Mais Christ est venu nous libérer. En Luc, chapitre 4, verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Parce que vous pensez bien que lorsque Adam et Ève ont eu cette vision de leur état, c'était pas bon du tout. C'était l'état, la vision du malin qu'ils avaient. L'état qu'on a de ce monde, cette vision du monde, c'est la vision normale. C'est la vision du malin. La puissance qui est dans ce monde aujourd'hui, c'est la puissance du malin. Et il faut une puissance supérieure pour nous enlever de ce monde, la puissance de Dieu, celle qui est capable aujourd'hui de nous rendre persévérants, de nous garder fermes dans sa parole. Aujourd'hui, si on déclare être en Jésus, alors vivons en homme libre. Vivons vraiment en homme libre. Mais moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis totalement libre. Mais libre de quoi? Le problème, il est là. Libre de quoi? Quelles sont aujourd'hui nos chaînes? Est-ce qu'on s'est construit une liberté? Est-ce que chacun s'est construit une liberté? Vous allez voir que ça va très loin. Parce qu'on va entrer maintenant dans le fond du problème. Et Alex en a parlé. Le malin posait des pièges énormes dans ce monde. Pas seulement pour ceux qui sont dehors, mais pour ceux qui sont dans les églises. Le plus grand est le piège le plus sournois. Je suis persuadé que je vais voir des réactions dans l'Assemblée qui vont être entièrement d'accord. C'est la religiosité, la plus grande religion dans les églises, quelle que soit la confession. C'est la religiosité. C'est avoir l'apparence du chrétien sans en avoir l'âme. C'est ce que la parole de Dieu dit et appelle des chrétiens de nom. L'âme, quand je dis sans en avoir l'âme, l'âme étant Jésus-Christ lui-même. Peut-être qu'il y a une partie du chemin qui a été faite. On est venu sur une estrade. On a dit oui, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Oui, le Seigneur a agi dans ma vie. Et à partir du moment où on est revenu, on s'est assis et on est resté assis. Et on s'est endormi. Je vous invite à lire les lettres aux églises en Apocalypse. Vous allez voir les choses qui vont vous être révélées. Est-ce qu'on est passé par la repentance? C'est de ça que je parle. Est-ce qu'on se rappelle du jour dans le parcours de notre vie de chrétien où on a pris conscience du péché dans notre vie? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Et je ne parle pas de « Ah oui, Seigneur, j'ai ça dans ma vie, je te le donne. » Non. C'est le fait d'avoir cette conscience que notre cœur est sale. Cette conscience de savoir que je ne peux pas être mis en relation avec un Dieu saint tant que mon cœur sera dans cette saleté. Il ne faut jamais oublier une chose, et un jour ça m'a vraiment... J'étais stupéfait, parce que dans le cheminement de l'esprit, le Seigneur m'a montré qu'en fin de compte, Dieu nous voit. Si Dieu nous voyait comme on est aujourd'hui, on est mort. On est mort, on est foudroyé. Mais Dieu nous voit chacun comme au travers de Jésus-Christ. Si vous méditez la parole de Dieu, c'est exactement ce que dit la parole à l'image de Christ, c'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il voit son Fils au travers de nous. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Ben si, je suis désolé. Lorsque Dieu nous donne son esprit, il voit Jésus. Parce que la vie qui va avec l'esprit, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire que on est A aujourd'hui, demain on est B. On n'est plus du tout la même personne. Les petits bonhommes que vous voyez avec le téléphone, du jour au lendemain, on n'est plus pareil. On jette le téléphone, on fait demi-tour. Au lieu d'aller dans le ravin, on va sur le petit chemin qui est étroit. Voyez le chemin pour aller dans le ravin comme il était grand. Et le chemin de Jésus, il est tout petit. On passe un à la fois. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que Dieu ne cohabite et ne cohabitera jamais avec le péché. C'est clair. Si je vous dis autre chose aujourd'hui, je suis en train de vous mentir et je suis en train de vous raconter n'importe quoi. Le deuxième piège, c'est la compromission. J'ai été chercher dans le dictionnaire la définition exacte. Vous allez voir comme c'est fort. C'est le fait d'exposer quelqu'un ou de s'exposer à un préjudice moral ou d'engager sa réputation dans une affaire douteuse, arrangement conclu par lâcheté ou par intérêt. Voilà ce que c'est la compromission. Et c'est pas une définition biblique. Hein. C'est la définition du Larousse qui vous explique exactement ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que tu crois. Ça ne sert à rien de faire des arrangements pour te faire croire que tu crois. C'est ça que ça veut dire. En fin de compte, c'est quoi la compromission ? C'est manquer d'honnêteté, manquer de sincérité. Alors moi, je me suis posé la question, à quel moment j'ai pas été sincère ? À quel moment j'ai pas été honnête avec le Seigneur ? Et si vous faites ça, si vous êtes honnête une fois pour une fois, vous allez vous apercevoir que y a bien des fois, hein, moi le premier, je me suis dit, mais c'est complètement idiot. C'est pas pour des choses graves. Mais toutes ces choses mises les unes à côté des autres, ça nous fait dévier du droit chemin. En 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté, ce n'est pas seulement par rapport aux gens qui sont en face de nous ou de vous, mais c'est devant le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas... Vous pouvez nous tromper, vous pouvez me tromper, je peux vous tromper. Il n'y a qu'une seule personne que je ne trompe pas. C'est Dieu lui-même. Il sait exactement où je suis. Il sait exactement ce que je fais. Il sait exactement où j'en suis avec lui. Et le problème pour nous, c'est de savoir où on en est réellement. Est-ce que dans mes activités, mon travail, mes loisirs, à quel moment j'ai perdu pied ? À quel moment j'ai manqué d'insincérité, d'honnêteté? Dieu est un Dieu jaloux. Il ne nous partage pas avec nos intérêts personnels, avec nos petits plans, avec nos petits arrangements. Deutéronome chapitre 4, verset 24, « Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Il ne faut pas oublier que le manque d'honnêteté ou de sincérité nous éloigne de Dieu. Complètement. Complètement. Parce que si on n'est pas honnête et pas sincère, c'est un mensonge. On est un mensonge aux yeux de Dieu. Parce que ce qu'on témoigne ne correspond absolument pas à la nature qui devrait être en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. « 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est qu'une personne use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. C'est ce que je vous ai expliqué, les compromissions. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. La question ce matin, c'est de quoi je suis esclave? Et c'est le titre de cette prédication. De quoi je suis esclave? Le troisième, c'est l'esclavage ou les chaînes. Et je viens de vous poser la question. De quoi je suis esclave ce matin? Quelles sont mes chaînes? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore de nos jours dans les chaînes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de M. Monceau, le gars de Porte Ouverte. On l'a accueilli à la maison, on a eu une discussion avec lui. Il m'a dit, tu ne pourrais pas savoir, et ça m'a surpris, tu ne peux pas savoir à quel point les chrétiens sont embringués dans la pornographie. Moi, quand il m'a dit ça, apparemment dans son église, il y a plein de gens qui sont embringués dans la pornographie, des chrétiens qui s'assoient dans les églises. D'autres, c'est l'alcool, d'autres, c'est la drogue, d'autres, c'est le sexe, d'autres, c'est le jeu. Tout le monde est lié. Alors que Jésus est mort pour qu'on soit libéré. C'est triste, non? Corinthiens chapitre 7 verset 23, vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Romains 6, 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains 6, 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. De quoi on est esclave ce matin? Vous pouvez, je vous répète, vous pouvez tromper les hommes, vous ne pourrez jamais tromper Dieu, parce que Dieu nous connaît. Est-ce que je suis prêt à subir le juste jugement de Dieu? On aura peut-être beau dire, mais attends, j'étais dans l'église, je me suis assis dans l'église. Et Jésus dira, comme il a dit à certains, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Combien on peut l'entendre? Combien nos frères et sœurs demandent la délivrance et ne l'obtiennent pas, tout simplement parce qu'ils retournent à ce qu'ils ont vomi. Ils retournent. Ah, je ne le ferai plus. Et on retourne. La repentance, c'est oui, je ne le ferai plus. Et on fait demi-tour. C'est ça, la vraie repentance. C'est pas, ah non Seigneur, je le ferai plus. Et on y retourne. C'est le fruit de la repentance qui est réclamé par Dieu. Le vrai fruit, c'est ça. C'est oui, Seigneur, je veux être libéré. Et quand la tentation vient, c'est Seigneur, aide-moi. Et on fait demi-tour. C'est pas Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il nous écoute. Mais Dieu un jour sera juste et bon. C'est montrer ce que j'ai eu sur le cœur, c'est de montrer au moins à Dieu notre volonté. Parce qu'il y a des gens qui prient, Seigneur, délivre-moi de ça. Et quand les choses arrivent, ils font même rien, aucun effort pour faire demi-tour. Dieu agira en son temps. Si le malin nous dit, mais attends, Dieu va agir en son temps. Mais des fois, on peut attendre longtemps. On peut attendre jusqu'à temps qu'on soit dans le cercueil, et il sera trop tard. Parce que c'est dans la détresse. Et quand je dis détresse, je crie à l'Éternel dans ma détresse. C'est qu'on crie avec le cœur. On ne crie pas parce qu'il faut le faire, c'est je crie avec mon cœur. Seigneur, j'en ai marre d'être comme ça. Moi, j'ai prié pendant des années, et un jour, le Seigneur m'a mis dans une petite pièce, il m'a dit, règle ta vie. Règle ta vie. Moi aussi, je croyais que les petites prières, c'était bien. Moi aussi, j'y ai cru. Moi aussi, je venais à l'église. J'ai vécu plus de 10 ans à venir à l'église, à prêcher au micro. Je faisais des petites prières. Et un jour, j'ai dû faire une prière un peu plus forte que les autres. Le Seigneur m'a fait passer une sacrée épreuve. Et au milieu de l'épreuve, il m'a dit, règle ta vie. Ça fait drôle quand vous entendez ça, vous pensez que votre vie est réglée. Elle l'est pas du tout. Elle l'est absolument pas. Et pourtant, j'ai vécu au milieu de vous comme un paria. Comme un paria, je donnais une image d'un vrai chrétien. Et je peux vous dire qu'après, j'étais honteux. J'étais honteux, j'ai passé 3 heures avec Kit. À pleurer comme un veau. Pas parce que j'étais ému de la situation, parce que j'ai pris conscience de la saleté de mon cœur, de la saleté que je donnais vis-à-vis de mes frères et sœurs. V'là cette vraie prise de conscience, v'là cette repentance. C'était des combats. Je ne vous dis pas que je n'ai pas rechuté. J'ai dit, je veux devenir saint. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore saint. Hein. Ouh là là. Je dis même, ma prière, c'est ne me rends pas parfait. Parce que si je me rends parfait, je vais oublier le fait de me revenir à la croix, le fait de prier, Seigneur, je remets tous les jours ma vie. C'est ça le piège aussi. Pour appuyer ce que je vous ai dit, on peut tourner dans l'épître de Jean, première épître de Jean. Chapitre 4, verset 9. J'ai témoigné à des frères et sœurs de l'Église et je les ai encouragés à étudier le premier épître de Jean. Le premier épître de Jean, lorsque vous commencez à méditer, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de niveau de gris. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du malin. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voyez, il n'est pas marqué ceux qui sont sur le chemin de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et cet épître ne dit pas, voilà, à partir de maintenant, parce que vous êtes chrétien, vous ne péchez plus. C'est absolument pas ce qui est marqué. Pratiquer le péché, c'est pécher au quotidien et se sentir bien dedans. Voilà ce que dit l'épître de Jean. Parce que la parole nous dit également qu'on peut chuter. Et pour cela, on a un avocat auprès du Père. Ça ne veut pas dire que je peux encore pécher. Non, ça veut dire que mon aspiration doit être la sainteté. C'est ça mon aspiration. Dieu conçoit parfaitement les chutes. Il le conçoit. Le problème, c'est que je chute une fois, je chute deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Ça veut dire que, au fait compte, on pratique le péché. On reste dedans. On est bien. Et la parole dit, et c'est pour cela, c'est pour cela qu'il y a tant de boiteux dans les églises. Parce que dans cette vie dissolue, dans cette vie remplie de compromis, dans cette vie où il y a un manque d'honnêteté, un manque de sincérité, ces chrétiens de nom ne distinguent plus le corps de Christ, absolument plus. On ensevelit notre vie avec des versets justifiant notre vie. En 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30, et c'est pour cela, là on parlait de la Sainte Cène, mais on peut très bien en parler pour ceux qui, dans leur comportement, ne distinguent même plus Jésus-Christ, ceux qu'ils ont reconnus comme Sauveur et Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts spirituellement. Un grand nombre sont morts spirituellement. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Pourtant, Christ est mort. Il est mort pour ce que nous étions. Ce que nous étions avant n'existe plus. Pour que aujourd'hui on soit une nouvelle créature faite à son image. En Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà la différence. Il y a une différence entre péché, chuter de temps en temps, et être esclave. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle nature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et les mêmes paroles sont répétées en Apocalypse, chapitre 21, verset 5, c'est quand on voit la nouvelle Jérusalem. Elle nous est décrite. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je fais toutes choses nouvelles. » La question qu'on se pose parfois, qu'est-ce qui a provoqué ma chute? Qu'est-ce qui a fait que j'ai raté le but? Lorsque l'Esprit de Dieu nous éclaire, lorsque je m'aperçois qu'en fin de compte, je n'ai jamais reçu cette nouvelle vie dont parle la parole. Parce que quand on reçoit la nouvelle vie, je vous assure qu'on n'est plus du tout la même personne. Plus du tout. C'est souvent dans notre conscience, lorsqu'on a un manque de certitude quant à notre salut. Est-ce que témoigne ce matin l'Esprit que nous a témoigné l'Esprit à notre conscience ce matin, quand on a vu ces images, quand on a entendu ces témoignages? Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle est ma certitude ce matin? J'ai vraiment sur le cœur que chacun on se pose les bonnes questions. Est-ce que je respecte les engagements que j'ai pris en venant devant vous dire oui, je reconnais Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que je respecte? Est-ce que je peux dire comme en Psaume 17, verset 5, mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point? Est-ce que je peux le dire ce matin? Est-ce que ma conscience me permet de le dire? On l'a encore entendu ce matin, ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on montre ici. Ça, c'est absolument pas important. Ce qui est important, c'est le témoignage qu'on donne à l'extérieur. Quel témoignage je donne? Est-ce que on peut dire, ou est-ce qu'on est d'accord avec Philippiens chapitre 1, verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme par la foi de l'évangile. Est-ce que c'est le témoignage que je donne ce matin? La vie de chrétien, elle peut être facile, on l'a vu, parce que Dieu est derrière toute chose. Et lorsque Dieu agit, il agit. Si vous êtes juste devant ses yeux, il va agir. Si on obéit, elle va être facile. Si on refuse les compromis, ah, c'est faire le tri. Je me compromets dans quoi ce matin? Si on refuse d'être esclave de ce monde, comme le petit dessin animé avec le portable, avec tout ce qui va autour, est-ce que l'ancienne nature est recouverte par la nature de Jésus-Christ? Je ne veux pas de réponse. C'est seulement la bonne question qu'il faut se poser ce matin. Parce que le Seigneur attend de nous une réponse honnête. Est-ce qu'on va oser être honnête une fois? Parce que le Seigneur a à son actif tout un arsenal. Il y a beaucoup de gens qui en ont fait la preuve, qui peuvent attester. Catherine l'a attesté ce matin pour nous sortir du quai-pied dans lequel on se trouve. Il a le pouvoir sur la nature. Jésus dans la tempête. Il a pouvoir sur le diable, lorsqu'il a libéré le démoniaque et envoyé les esprits dans les pourceaux. Le pouvoir sur la maladie, lorsqu'il a guéri plein de personnes. Le pouvoir sur la mort, la fille de Jaïrus. Le pouvoir sur nos besoins, lorsqu'il a donné à manger à 5000 personnes. Est-ce que pour une personne, nous en particulier, il ne serait pas capable de le faire? Même si le diable vient et nous dit, Dieu t'a-t-il réellement dit? Dieu te dit ce matin dans sa parole, en Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset termine bien par « pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ma prière pour nous et pour chacun d'entre vous ce matin, c'est que on puisse être trouvé en Jésus-Christ. Et si ce matin on sait qu'on n'est pas en Jésus-Christ, que notre vie est une vie remplie de compromis, que notre vie n'est pas réglée devant lui, moi, je vais te dire une chose. Et il ne faut pas regarder les frères et les sœurs en étant honteux de s'avouer au bout peut-être de 30 années, 40 années de venir à l'église. Ben moi, je vais te dire une chose. Il faut s'avancer. J'ai vraiment sur le cœur qu'il faut se lever, il faut s'avancer. Jésus a toujours dit à la personne qui se présentait devant lui, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus veut nous donner cette vie éternelle. Il ne va pas la donner à ceux qui vivent dans le compromis, à ceux qui vivent dans des petites machinations, à ceux qui sont en dehors du chemin en se croyant dans le chemin, en bricolant une vie de chrétien, en se disant simplement, oui Seigneur, je sais que je vis avec des compromis, je sais que je suis dans la rébellion, je sais que je suis dans la désobéissance. Mais Seigneur, je te donne tout ce matin. Je te donne tout ce qui fait ma vie aujourd'hui. Vous imaginez que lorsque Jésus a donné à manger à 5000 personnes, il n'a pas pris 2 jours pour faire le pain, il n'a pas pris 4 jours pour aller pêcher le poisson. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Et en plus, après, ils ont rempli 12 corbeilles de ce qui restait. Ça veut dire que le Seigneur peut aller au-delà de nos espérances. Si ce matin, tu crois que ta vie est triste, si tu crois que ta vie est sale, moi je te dis, Christ peut aller au-delà de ce que tu crois. Il peut vraiment régler les choses d'une manière fantastique et définitivement. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est mort pour ça. Il n'est pas mort pour qu'on bricole. Parce que Dieu est la lumière du monde. Enfin, Jésus est la lumière du monde, mais Dieu et Jésus sont les mêmes. C'est-à-dire que quand Jésus apparaît dans la vie d'une personne, il n'y a plus d'ombre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la vie de cette personne n'est plus cachée aux yeux de Dieu. Rentrer dans une maison où les persiennes sont baissées, c'est triste. Vous rentrez dans une maison, la même maison, où c'est le soleil qui rentre. La maison est totalement différente. La lumière de Dieu veut entrer dans vos cœurs ce matin pour vous faire devenir comme lui, la lumière du monde. C'est ce que la Bible nous demande d'être aujourd'hui, des disciples de Christ, pas seulement dans nos églises, parce que même nos églises seront jugées. Mais chacun individuellement, qu'on soit la lumière du monde, qu'on soit les disciples, des vrais disciples, remplis d'amour, où il n'y a plus la colère, où il n'y a plus les compromis, où il n'y a plus rien, si ce n'est que la vie de Christ. Quand on voit ces choses que Alex nous a montrées ce matin, ça ne vous fait pas peur? J'ai entendu les réactions derrière moi. C'est exactement le monde dans lequel on vit. Vous avez des gens qui se suicident et là on filme. Vous avez des gens qui vendent des produits qui font mourir. Et tout va bien, parce que la puissance c'est l'argent. Vous avez des gens qui tolèrent des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu parce que on a des droits. Mais le jour où Dieu va reprendre son droit, je peux vous dire une chose, c'est que ces personnes-là, et j'espère qu'on n'en fera pas partie, vont être foudroyées. N'oubliez jamais une chose, que ceux qui ne seront pas en Christ n'auront même pas le droit d'adresser ni de regarder Dieu en face. C'est la gêne directe. Est-ce que je vais faire partie de ces gens-là? Je crois que le monde dans lequel on vit maintenant, ça devrait nous faire penser qu'on est vraiment dans la fin des temps. Il est plus que temps, chacun, qu'on règle nos vies devant le Seigneur. Parce qu'un jour ou l'autre, il n'y aura pas de tralala, il n'y aura rien. Au son de la trompette, Jésus-Christ apparaîtra. Et tous ceux qui ont été contre lui, même ceux qui l'ont percé, le verront. J'espère qu'on ne fera pas partie de ce nombre. Que chacun de nous, ce matin, nous puissions être trouvés clairs avec Jésus-Christ. J'ai eu vraiment cela sur mon cœur en lisant ces versets, que on puisse être honnête. Et même si c'est pas cette année qu'on puisse, ça peut être comme fait malheureusement le monde, qu'on dit Seigneur, je veux commencer une nouvelle année avec toi. Je veux arrêter toutes ces choses. Je veux être juste devant tes yeux, sincère, honnête. Que ce soit l'Esprit de Dieu qu'il faut travailler, et pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne sers à rien. Dieu peut toutes choses en tous. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour la puissance de ton Esprit. Seigneur, tu as tout conduit ce matin. Seigneur, tu nous as alertés dans cette présentation sur comment était ce monde. Seigneur, tu nous as alertés dans les témoignages sur qui tu es, le juste juge. Seigneur, on a pu voir au travers de Catherine la façon merveilleuse dont tu agis. Seigneur, on devra avoir soif de connaître ces choses. Parce que Catherine n'est pas la seule. Tu veux tant de personnes connaissent cette merveille dans nos vies. La puissance de ton esprit. La justice de ton nom dans nos vies. Seigneur, que ton esprit seul puisse troubler les consciences. Pas troubler les consciences dans le sens de déranger, mais vraiment atteindre notre petit cœur qui est enseveli par ces choses du monde, afin qu'aujourd'hui on puisse connaître ce Jésus-Christ qui, lui, n'a pas réfléchi sur sa condition, mais il a obéi au Père pour qu'aujourd'hui nous soyons libres et nous puissions le connaître. Pour, comme a dit Alex, Seigneur, on puisse montrer de l'amour envers nos prochains. Que toute colère soit enlevée, toute haine soit enlevée, toute amertume soit enlevée. Mais Seigneur, que Christ seul soit dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen.